quel âge les jeunes deviennent-ils sexuellement actifs? Y a-t-il un âge idéal pour un premier rapport sexuel? Quelles conditions doivent être réunies pour que ces premiers rapports sexuels se déroulent bien? Voilà quelques-unes des nombreuses questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos invités. Ils sont artistes, étudiants, élèves, membres de la société civile, mais surtout jeunes. Et ce sujet les intéresse particulièrement. Ils sont venus parler de leur expérience et partager leur point de vue. Bonjour ces auditeurs, vous êtes dans votre émission Ensemble faisons entendre la voix des jeunes. Nous allons parler de la sexualité des jeunes et plus précisément des premiers rapports sexuels. Merci à nos invités d'être là. Nous sommes à Dercle à Dakar et ici comme un peu partout au Sénégal, ces questions de la sexualité interpellent les jeunes. Avant de poursuivre, je vais demander à chacun de se présenter. Je vais commencer par la droite.
Je m'appelle Ababacar Seck, je suis formateur scout, plus précisément formateur dans l'association des éclaireurs et éclaireurs du Sénégal, et je suis aussi formateur EVF.
Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Bandagne Fall, je suis éclaireuse de la région de Saint-Louis, plus précisément du Galle UGB.
Bonjour chers auditeurs, je me nomme Papousmane Camara. Je suis de l'association des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal et plus particulièrement de l'Université Charles de Gaulle de Dakar.
Cette importante étape de la vie que sont les premiers rapports sexuels demeure un mystère pour beaucoup de jeunes. En particulier, la première fois, il y a toujours une première fois. Nous allons à présent écouter le témoignage de ce jeune Mustapha qui a bien voulu partager avec nous son histoire. Je vous propose d'écouter notre histoire du jour qui s'intitule « Responsable par accident ».
Je m'appelle Mustapha, j'avais 15 ans. J'étais élève dans un collège de la banlieue dakaroise. J'étais un surdoué dans toutes les matières, surtout scientifiques. J'étais le fils rêvé de tous les parents. Un exemple dans mon école. Je dispensais même des cours de renforcement à mes camarades. Je n'avais jamais couché avec une fille, je dis bien jamais, et l'idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Mes amis me semblaient souvent sur le fait que j'étais le seul du groupe à n'avoir jamais eu de rapport sexuel. On me surnommait même le petit puceau. Et cela jusqu'au jour où je me suis dit « Assez, ça suffit. J'en ai marre qu'il titille mon orgueil à chaque fois que l'occasion se présentait. » J'avais décidé de franchir cette étape et de parvenir dans le monde des adultes. Pour la jeune fille qui devait m'accompagner dans cette aventure, Astou, une camarade de classe, teint clair, très ambitieuse, avec qui j'avais l'habitude de réviser les cours, me plaisait beaucoup. Et l'idée de partager avec elle, plus que les bouquins, m'a toujours effleuré l'esprit. Ma cible était identifiée. Reste maintenant à trouver un moyen de convaincre Astou de coucher avec moi. À la veille d'un devoir de mathématiques, j'avais invité Astou à la maison pour réviser ensemble. Ce qu'elle a immédiatement accepté, puisqu'elle ne se doutait de rien. J'avais choisi de l'amener chez moi, sachant que personne n'y serait à cette heure. Une fois que nous étions seuls dans cette grande demeure, sans discuter au préalable avec elle, l'excitation et l'envie de passer à l'acte me brûlaient le ventre. Une seule idée me taraudit l'esprit, satisfaire ma libido. Elle était anxieuse d'être devant une situation aussi surprenante qu'embrassante, c'est-à-dire de faire une chose qu'elle n'avait encore jamais faite jusque-là. Mais devant celui qu'elle considérait comme son frère et son confident, elle a fini par être convaincue que si elle se mettait au-dessus de moi pendant l'acte, elle n'allait pas perdre sa virginité. Pas de fleurs, encore moins de caresses préalables. Ce qui justifie ses cris de douleur au moment où l'hymen s'est déchiré. C'était fait. Maintenant, j'étais un homme. Quelques mois plus tard, Astou tomba enceinte de moi et était contrainte d'arrêter ses études. Me sentant aussi responsable de ce qui lui était arrivé, j'étais aussi obligé de quitter l'école, abandonnant ainsi tous mes rêves de devenir un jour un homme incontournable dans le domaine de l'aviation et trouver du boulot pour m'occuper d'Astou et de notre enfant. Après la naissance de celui-ci, nos parents étaient dans l'obligation de nous unir par les liens du mariage. À 6 ans seulement, j'étais déjà jeune papa, malgré moi, avec les sempiternelles responsabilités qui meublent le quotidien d'un père de famille. Comme moi, beaucoup de jeunes de mon âge pensaient que tout finit après le premier rapport sexuel, mais que non, tout vient de commencer.
Merci à Mustapha d'avoir bien voulu partager son histoire avec nous. Pape Ousmane Camara, vous avez entendu Mustapha, l'histoire de Mustapha. Que vous inspire cette histoire de Mustapha?
Un témoignage fort qui explique aujourd'hui notre quotidien en tant que des jeunes garçons. Parce que D'habitude, les premiers rapports sexuels, c'est toujours un souci d'orgueil, un souci de vouloir s'affirmer en tant qu'homme. Aujourd'hui, un sentiment de vouloir montrer à ses pairs, à son entourage, que l'on est vraiment un homme. Et on n'est jamais prêt durant les premiers rapports sexuels. Durant les premiers rapports sexuels, on n'est jamais prêt. Parce que ignorant vraiment tout ce qu'implique vraiment ce premier rapport sexuel, sachant que en fait c'est l'aboutissement, alors que ce n'est rien d'autre que le début d'une vie, que le début peut-être de quelques dérives qui peut conduire à nuire même notre vie. Donc manquant d'informations exactes sur ce que peut impliquer le premier rapport sexuel, on s'y met sans pour autant être informé de quoi que ce soit, pensant qu'en fait c'est le début de notre affirmation en tant qu'homme. Par ce témoignage, c'est comme si en fait un miroir qui s'affiche devant moi étant jeune, et que pas mal de jeunes d'entre nous ont passé par l'exemple de Mustapha. Donc je pense que c'est un témoignage fort qui aujourd'hui explique le quotidien de tout jeune Sénégalais. Donc vraiment c'est ma position par rapport à ça.
Mademoiselle Pandel Fall, nous venons d'entendre l'histoire de Mustapha qui a bien voulu partager son histoire avec nous. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette histoire de Mustapha?
C'est une histoire à travers laquelle beaucoup de jeunes vont se sentir, je veux dire. Ils vont se voir sur le personnage de Mustapha, en fait. Il a vécu quelque chose que nombre de ses pères ont vécu et qui, en quelque sorte, a gâché tout un avenir, l'avenir d'une famille, d'une famille tout entière. Et que c'est d'habitude comme ça que ça se passe, c'est l'influence de ses pères, l'influence de ses compagnons qui pousse les jeunes à faire des choses qu'ils vont regretter après.
Je me tourne maintenant vers Ababacar Seck, qui est formateur à EVF. Nous venons d'entendre cette histoire de Mustapha. Quel enseignement peut-on tirer de cette histoire?
C'est une histoire triste et une histoire malheureusement classique qui est vécue par beaucoup de jeunes à travers le Sénégal et ailleurs, et qui nous met en fait toujours mal à l'aise. En tant que formateur, quand j'entends ces histoires, malgré tous les efforts qui sont faits, on ne peut pas ne pas être triste d'entendre cela, parce qu'on a l'avenir de nos jeunes qui est menacé pour des actes qui sont pas du tout réfléchi, qui beaucoup plus repose sur des questions d'orgueil qu'autre chose, alors que les conséquences peuvent être extrêmement négatives. Je pense qu'on gagnerait encore, on doit redoubler d'efforts pour permettre à nos jeunes d'être beaucoup plus conscients en fait de leurs actes, d'avoir beaucoup plus d'informations pour se préparer à une vie en fait d'adulte. Un acte sexuel n'est pas innocent. Nos jeunes ne sont pas malheureusement formés ni pour se prendre en charge eux-mêmes, ni pour prendre en charge quelqu'un d'autre. Et cet acte sexuel peut les amener à des situations qui vont les confronter à des difficultés qui peuvent véritablement en fait menacer leur avenir. Et nous sommes là en tant que formateurs pour les aider à gérer ces situations de la meilleure des manières, bien sûr en travaillant avec beaucoup d'autres acteurs, pour que les questions de santé des jeunes, les questions de sexualité, surtout prénuptiale, ne puissent pas conduire à des situations malheureuses.
À travers cette histoire, à travers vos histoires, nous savons que le problème est complexe. La culture, l'éducation, les traditions et même la religion jouent un rôle important. Et il est difficile de répondre à cette question. Dans quelles conditions avoir son premier rapport sexuel? Notre reporter a fait le tour de la ville pour poser cette question à nos compatriotes. Écoutons, à travers ce micro-trottoir, les réponses des jeunes filles et garçons rencontrés. À votre avis, comment réussir son premier rapport sexuel?
Pour réussir son premier rapport sexuel, je pense qu'il faut la préparer d'avance. Ça doit se faire dans un lieu spécial et surtout romantique. Les deux partenaires doivent être psychologiquement et avant tout acte, il faut tarder surtout sur les préliminaires jusqu'à ce que la fille mouille beaucoup pour qu'il puisse faciliter la pénétration.
Pour réussir son premier rapport sexuel, selon moi, le garçon ne doit pas se précipiter. Parce que s'il se précipite, il peut être stressé et au final, ça ne va pas marcher. Il ne va pas être bien bandé, quoi. Donc le rapport ne pourra pas se faire. Donc il ne doit pas se précipiter. Et la fille aussi doit être consentante. Elle doit consentir au rapport. Ils doivent le faire dans un endroit où tous les deux se sentiront à l'aise, où ils n'auront aucun problème à faire le rapport sans pour autant qu'ils se perturbent, quoi. Il faut surtout éviter de forcer si la fille te dise que tu lui fais mal. Il faut y aller doucement, lui donner le plus de plaisir possible. S'il le faut même, tu peux utiliser ce qu'on appelle des lubrifiants pour vagin. Ça va aider à la pénétration. Donc, je pense qu'il faut éviter surtout de forcer la fille. Il faut aller doucement avec elle, la comprendre, lui faire prendre confiance en elle. Si ça passe, alors à la suite, elle ne va plus ressentir de la douleur, mais au contraire du plaisir.
Pour réussir son premier rapport sexuel, il faut surtout éviter de reproduire les expériences déjà utilisées, mais aussi d'éviter de reproduire les mêmes actions vues dans un film quelconque. Aussi, essayer de dominer son partenaire et d'être relax, quoi. Il faut prendre son temps, essayer de prendre du plaisir et aussi de donner du plaisir à son partenaire. L'endroit idéal ou le moment idéal, je ne pense pas que ce soit important. Il faut surtout discuter ensemble, prendre les décisions ensemble, trouver le moment et le lieu opportun pour le faire.
Alors, avant de recueillir vos réactions, j'aimerais vous donner quelques informations sur l'âge moyen des premiers rapports sexuels au Sénégal. Selon l'EDS 2013, 28% des filles âgées de 15 à 19 ans ont déjà eu des rapports sexuels, donc presque une fille sur trois. Institut Guttmacher calculé d'après le dernier EDS, selon la même source, 83% des filles âgées de 15 à 19 ans qui ont déjà eu le rapport sexuel sont actuellement en union. Cela veut dire que la sexualité, en tout cas déclarée, existe principalement dans le cadre du mariage. De plus, l'âge médian au premier rapport sexuel est de 19 ans pour les 25-49 ans chez les femmes et 22 ans pour les 25-49 ans chez les hommes. Nous constatons que les rapports sexuels sont donc plus précoces chez les filles. Pour terminer, notons que ce dernier chiffre, 15% des femmes de 20 à 49 ans avaient déjà eu des rapports sexuels avant d'atteindre l'âge de 15 ans. Avec ces données, nous constatons que la vie sexuelle des jeunes commence assez tôt au Sénégal. Par rapport à ces chiffres, par rapport à ce micro-trottoir, Pape Ousmane Camara, quelles conditions doivent être réunies pour que ces premiers rapports sexuels se déroulent bien?
Je pense que ça a été clair. Après le micro-trottoir, beaucoup de jeunes se sont prononcés. Mais d'emblée, il faut savoir que la chose est réelle et qu'au Sénégal, les jeunes sont sexuellement actifs et qu'il faudrait en discuter d'abord parce que la plupart des jeunes, à la première fois, ils n'ont pas d'informations. Tout à l'heure, l'un des jeunes interrogés s'est prononcé là-dessus en parlant en fait de reprendre ce qu'on a déjà vu quelque part. C'est-à-dire, et quand on dit quelque part, c'est soit la télévision, et aujourd'hui, de manière beaucoup plus poussée sur Internet. Et à chaque fois, on a tendance, quand on veut faire un rapport sexuel, surtout la première fois, l'idée qu'on ait, c'est de vouloir dominer. Donc pour nous jeunes, c'est ça l'aspect qui est important. Alors que, à mon avis, il faudrait que l'on sache d'abord que c'est un besoin. En fait, c'est un besoin peut-être pour tout être humain. Maintenant, que la chose soit précoce. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord en parler davantage. Faire de telle façon que le problème de la sexualité des jeunes ne soit plus un sujet tabou. Que les jeunes puissent se préparer à l'avance. Se préparer à l'avance, c'est aujourd'hui avoir un cadre de dialogue avec les anciens, les adultes. Donc quand je dis les adultes, c'est les grands frères, les parents, les personnes aujourd'hui qui sont des spécialistes sur le domaine de la sexualité, afin que les jeunes puissent avoir assez d'informations avant même de s'en prendre à cette vie, qui est la sexualité. Parce que en tant que jeune, ici et ailleurs, nous voyons toujours qu'il y a des problèmes après le premier rapport sexuel. Et que les statistiques données l'ont affirmé que plus de 83% des jeunes qui ont déjà connu le sexe se sont retrouvés enceintes. Donc je parle des jeunes filles. Et que c'est pareil aussi pour les garçons, que les jeunes qui arrivent par exemple à faire le premier rapport sexuel, soudainement après ils n'arrêtent plus. Donc c'est un processus qui continue. Et quand ça continue, manquant d'informations, manquant en fait de connaissances sur la chose, ils vont continuer toujours dans cette ignorance et ils vont encore causer beaucoup de problèmes. Donc à mon avis, cette question, pour aujourd'hui, que le jeune puisse être prêt pour le rapport sexuel, c'est que le jeune doit avoir toutes les informations nécessaires. Et toutes les informations nécessaires doivent être disponibles. Soit à l'école, on doit en parler à l'école, plus en parler à l'école, plus en parler entre frères et sœurs, entre amis, entre parents, que cela ne soit plus un sujet tabou.
Je me tourne maintenant vers mademoiselle Bandel Fall. On a parlé d'information. En tant que jeune, pensez-vous que les jeunes sont suffisamment informés avant les premiers rapports sexuels et quel genre d'information devraient-ils avoir avant d'aborder cette étape?
Merci pour cette question pertinente. En fait, en tant que jeune, quand on prend en général les jeunes sénégalais, on n'est pas tellement informé parce que, comme l'a dit Passman, le sujet reste tabou au Sénégal, ça reste tabou. D'abord, les informations qu'on devrait avoir, d'abord, ça devrait être familial, genre dans notre famille, non, de nos parents, ça devrait venir de nos parents. Quand je parle de parents, je ne parle pas seulement de papa et maman, il y a aussi le grand frère, il y a la grande sœur. Peut-être qu'ils sont plus expérimentés que nous, que c'est eux qui devaient nous parler de ça. Mais d'habitude, on remarque qu'il y a un blocus pour parler de ce sujet en famille. Et aussi, il y a un autre milieu, que c'est le milieu scolaire, à l'école. Parce qu'on peut dire que si le premier rapport réussit ou pas, ça dépend de la connaissance de la personne sur la biologie, parce que tout est biologique. Donc, on devrait d'abord connaître qu'est-ce que c'est que l'organisme humain pour pouvoir dire qu'on va réussir telle chose ou telle chose, parce que ça concerne notre organisme, on peut dire. Donc, je peux dire qu'on n'est pas tellement bien informé, on n'a pas toutes les informations. Et d'habitude, ce qu'on entend, c'est qu'on essaye de diaboliser le premier rapport. C'est toujours diabolisé. On dit que on te fait penser à des choses, tu te dis que c'est quelque chose de vraiment grave, c'est quelque chose de vraiment... Voilà, tu y vas avec... Tu es déjà stressé avant même de le faire, par l'entourage, par les amis et tout. Et puis, les informations qu'on devrait avoir, il y en a beaucoup. Quels sont les risques à ne pas prendre? Quelles sont les choses à ne pas faire? Quelles sont les précautions à faire d'abord pour ne pas contacter telle chose ou telle chose après? Et quels sont les risques qui nous attendent si on fait cette chose-là, sans peut-être... Et surtout quelque chose, c'est que la première condition pour faire le premier rapport pour moi, c'est que cette chose soit délibérée. C'est que vous deux qui allez faire ces relations, que vous avez pris cette décision-là à deux, sans influence de personne. Et ne pas le faire sous influence ou sous... Je ne sais pas comment le dire. De ne pas être influencé pour faire quelque chose. Il faut prendre les choses délibérément, prendre ses décisions proprement avec l'autre personne, le partenaire, pour pouvoir le faire délibérément. Et puis, rechercher toutes les informations dont on a besoin auprès des connaisseurs. Genre, on a maintenant les clubs ados et tout. En parallèle sur ces zones-là, c'est plus mûr. Et avec nos grands frères, nos grandes sœurs, ce serait mieux.
Ababacar Seck, vous êtes formateur. Vous venez d'entendre trois jeunes dans ce micro-trottoir que nous avons écouté. Maintenant, pour le formateur que vous êtes, pensez-vous que les conditions pour aborder ce premier rapport sexuel se limitent seulement au préalable, se limitent au lieu et à l'endroit qu'on doit choisir? Est-ce qu'il y a d'autres conditions qu'on doit remplir avant de franchir cette étape?
Et en fait, les conditions les plus importantes ne sont pas remplies. Nous savons une chose, hein, l'évidence, c'est que les jeunes sont sexuellement actifs. Maintenant, est-ce que ces rapports sexuels sont protégés? C'est surtout de cela qu'il s'agit. Les jeunes n'ont aucune information sur les incidences qu'à la suite d'un rapport sexuel, il peut y avoir grossesse non désirée, avec tous les risques qu'il y a pour les jeunes, les risques de santé, sans compter les risques sociaux, et, etc. Il peut y avoir aussi, on peut attraper des maladies, on a des infections sexuellement transmissibles. Et par rapport à toutes ces choses qui peuvent survenir, il faut que les gens aient la bonne information. Savoir qu'un rapport peut mener à la grossesse. Un rapport peut mener à une grossesse à risque pour des jeunes. Et qu'un rapport aussi peut mener à des infections ou des maladies. Et comment, en fait, se protéger par rapport à tout cela? Une chose simple, c'est de bien savoir connaître son corps. Les jeunes ne connaissent pas leur corps, n'ont aucune information sur le développement, en fait, le développement physique et biologique. Et ne savent pas qu'à un certain âge, on est capable d'avoir un enfant. Et beaucoup de jeunes ne le savent pas et pensent même que ce rapport ne suffit pas pour avoir des enfants, ce qui est totalement faux. Je pense qu'il faut qu'on les informe sur d'abord leur corps, qu'ils sachent qu'ils ont un corps qui se transforme et qu'ils deviennent adultes. En tant que jeunes adultes et autres, ils peuvent demain être parents ou mères en fait, d'enfants. Mais pour être parent, il faut être très bien préparé. Si on n'est pas préparé, mieux vaut déjà éviter. En se protégeant, en prenant en fait, en ayant l'information, en ayant accès aux produits qui permettent en fait à tout un chacun de protéger les relations sexuelles, et aussi de se préparer aux autres conséquences si on décide de ne pas avoir un rapport protégé, de se préparer aux autres conséquences. Est-ce qu'on est prêt à devenir parent? Je ne pense pas que les jeunes l'envisagent, pas du tout. Et si ce n'est pas quelque chose qui est envisagé parce que c'est quelque chose qui ne passe pas encore dans notre société, et la première histoire, en fait, est là pour encore nous édifier et nous rappeler tout ce qui se passe dans ce domaine. Donc, mon avis, encore une fois, et c'est l'avis partagé par tout le monde, les jeunes n'ont pas la bonne information. Ce n'est pas une question de préliminaire. Il y a beaucoup plus important. Les conséquences au plan social, les conséquences au plan physique sont beaucoup plus importantes que le petit plaisir qu'on peut avoir. La vérité, c'est que beaucoup de jeunes, en fait, ne prennent même pas de plaisir pour le premier rapport parce qu'on découvre, on ne maîtrise rien. Okay? Et donc, il est important encore qu'on insiste sur l'information et la formation des jeunes, qu'ils puissent savoir tout ce qui peut advenir avant qu'ils ne décident de passer à l'acte. Et c'est ce qui permettra peut-être de les mettre plus à l'aise pour leur futur.
Quels sont les obstacles, Pape Ousmane Camara, quels sont les obstacles que les jeunes rencontrent dans l'accès à cette information?
Nombreux sont les obstacles aujourd'hui, parce que déjà, rien que les préjugés qui sévissent la société constituent des obstacles. Parce que on est mal vu aujourd'hui. Je prends l'exemple dans notre association. Il nous arrive au niveau des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal que l'on veuille parler ou bien que l'on soit dans des projets où l'on parle de sexualité. Et la plupart, de retour même chez nous, les jeunes qui ne sont pas dans notre association ou bien qui n'ont jamais connu les mouvements associatifs ont un mauvais regard sur nous parce qu'ils pensent que comme on parle de sexe, c'est parce que nous incitons les jeunes à faire la pratique du sexe. Alors que tel n'est pas le cas. Nous, quand on informe, c'est pour prévenir les jeunes. Sachant que les jeunes sont sexuellement actifs et qu'aujourd'hui, la solution n'est plus de les dire d'arrêter, mais de les donner les bonnes informations pour que ces jeunes-là puissent être prêts à entamer telle ou telle vie. Pour au moment où ils doivent entamer cette vie, que ces jeunes puissent au moins détenir les informations nécessaires avant de s'y mettre. Et les obstacles aussi au niveau de nos familles, les obstacles sont aussi présents au niveau de nos familles parce que on n'en parle pas en famille et que à mon avis les choses les plus importantes dans la vie, que ce soit les études et tout, ça se parle en famille, ça se règle en famille, alors que cette question essentielle qu'est la sexualité des jeunes ne puisse pas être prononcée en famille.
Est-ce qu'il y a des structures habilitées pour pouvoir informer, pour pouvoir donner la bonne information aux jeunes?
Il y a des structures habilitées. Je prends le cas de MSA et Marisom International qui sont en train de faire un travail exceptionnel sur ça. Je prends le cas de Santé Mobile, des centres ados, et même au niveau des centres de santé maintenant, il y a des espaces jeunes qui sont mis en place, ne serait-ce que pour donner les jeunes l'information exacte. Et que la plupart aussi de ces espaces ne sont pas accessibles. Quand je dis que ce n'est pas accessible, ce n'est
donc
pas...
Donc il y a un problème d'accessibilité.
Il y a un problème d'accessibilité au niveau de ces centres. Et que la plupart des jeunes qui sont plus actifs qui sont plus actifs en sexualité, ce ne sont pas tout simplement les jeunes instruits, mais il y a une autre partie de la jeunesse qui aujourd'hui vit dans les communautés un peu plus éloignées dans le Sénégal. Et c'est là-bas où la sexualité est plus présente, la sexualité des jeunes est plus présente, et que ces jeunes-là n'ont pas aujourd'hui les moyens ou bien la possibilité d'accéder à ces services, que ce soit MSI, le Santé Ado, etc., etc. On essaie de développer aujourd'hui en modernisant, mais quand on modernise tout simplement les jeunes modernes, mais il y a des jeunes qui vivent au fin fond du Sénégal qui ont un problème de trouver même le réseau pour pouvoir peut-être faire des appels en fait les plus banals. Donc, et que l'on veuille aujourd'hui moderniser la chose en la rendant sur internet, etc., etc., alors que il y a une bonne partie des jeunes où par exemple le ministère de la Santé doit faire des efforts pour que ces jeunes-là puissent être pris en compte. Donc aujourd'hui les obstacles aussi, c'est au niveau des informations, parce que tout le temps on en parle dans les radios. Les spécialistes sont en train de faire des travaux exceptionnels sur ça, mais ça reste encore, donc on n'a pas vraiment toutes les informations nécessaires, même si il y a aujourd'hui des espaces qui sont aménagés dans les hôpitaux, etc., etc. Je pense qu'il y a encore des obstacles et qu'il faut franchir.
Mademoiselle Fall, qui selon vous est le mieux placé pour informer les jeunes?
Bon, ce serait un peu difficile de dire que celui-ci est mieux placé que l'autre, parce que on peut dire que c'est un groupe, voilà.
Entre les parents, les
professeurs.
Les professeurs, oui.
Et entre nous-mêmes jeunes, il y a des jeunes plus expérimentés, il y a des jeunes qui ont plus accès à l'information que d'autres jeunes et qui peuvent véhiculer cette information vers eux. Il y a aussi les parents qui devraient faire les premières choses, je veux dire. Briser cette glace qu'il y a entre nous pour parler de ce sujet-là. Briser cette glace-là et mettre plus à l'aise leurs enfants pour parler avec eux de ce sujet-là. C'est, en fait, on remarque qu'au Sénégal, entre le parent et l'enfant, c'est plus une relation dominée-dominant qu'une relation de deux personnes qui devraient discuter des choses, d'échanger des choses. Parce que pour moi, la première personne qui doit parler de ça, c'est le parent. Qu'importe que ça soit la maman ou le frère, la sœur. C'est celui-là qui doit parler en première, parce qu'on peut dire que c'est avec lui que le jeune a plus d'affinité. Donc il se sentirait plus à l'aise de parler avec lui. Donc c'est aux parents d'abord de changer de mentalité et de parler à nos jeunes. Ensuite, il y a les professeurs en classe. On a
qui
des matières
plus de temps avec les
voilà
gens.
À part la maison, c'est à l'école qu'on passe plus de temps. Donc ce sont ces professeurs là qui doivent parler avec nous. Il y a des clubs à l'école, il y a des clubs EVF, il y a ces clubs là ces clubs devraient être des lieux d'échange où les jeunes pourraient parler de sexualité librement, sans complexe, sans tabou, et avoir l'opportunité, si même ils n'ont pas cette opportunité à la maison de parler de ça, qu'ils puissent en parler à l'école, avec les professeurs, avec les profs d'éco-femme, d'économie familiale. C'est leur rôle de faire ça pour moi. À part ça aussi, comme je l'ai dit au début, il y a nous jeunes. Avec les pères éducateurs, on remarque que ce sont des jeunes qui sont formés pour parler de ça à d'autres jeunes. Ce serait plus facile de discuter entre jeunes, parce qu'entre jeunes, on se dit des choses qu'on ne peut pas dire aux adultes. Donc, on devrait plus développer ces méthodes-là pour que les jeunes puissent se déplacer et comme il l'a dit, il y a des jeunes qui sont au fin fond du Sénégal, qu'ils puissent eux-mêmes avoir leurs pères éducateurs, qu'ils puissent aller parler directement à ces jeunes-là. Entre jeunes, serait facile vraiment de passer cette information.
Maintenant, M. Ababacar Seck, on a parlé d'information, de structures qui devraient donner la bonne information aux jeunes. Pour vous qui êtes formateur, à quel âge pensez-vous idéalement que les jeunes devraient avoir accès à cette information?
Je pense que En fait, ça devrait se faire le plus tôt possible, parce qu'avant la sexualité, il faut prendre un peu le développement physiologique, géologique de l'individu. Il faudrait que les jeunes puissent déjà comprendre comment leur corps se transforme et qu'est-ce qui pourra se passer par la suite. Cette information, qui peut la donner? Je pense que tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué, bien sûr, les parents. Quand on dit parents, le père, la mère. Mais pas seulement le père et la mère, les oncles, tout le monde peut pouvoir, les frères, tout le monde peut pouvoir, en fait, aider les jeunes à avoir accès à plus d'informations. Mais pour informer aussi, il faut qu'on soit soi-même bien informé, hein. Et il y a une formation au niveau des adultes, et on a l'habitude de l'occulter en pensant que les adultes savent tout. Souvent, ce n'est pas le cas. Donc, les parents doivent, en fait, s'impliquer beaucoup plus activement. Les professeurs aussi à l'école, parce que l'enfant passe beaucoup de temps à l'école et il y a même des cours qui sont beaucoup plus en fait dédiés à ces choses, doivent être impliqués. Mais aussi, il y a d'autres acteurs. Je pense les pères éducateurs, comme on l'a dit. Et on peut avoir un système de mentoring, parce que les jeunes aussi peuvent être à l'aise avec certains adultes. Et tout le monde doit être impliqué pour que les jeunes puissent avoir en fait, l'information la meilleure possible pour pouvoir mieux décider. Les infrastructures sont là, mises en place par en fait, l'État, des ONG et autres, mais il ne peut pas y en avoir assez, parce que la population se développe très vite, et donc il n'est pas étonnant qu'il y ait des problèmes d'accessibilité géographique et autres. Okay? Donc tout le monde doit pouvoir s'impliquer pour aider nos jeunes à être plus responsable, parce que c'est une question de responsabilité ultimement, et ce qui nous aidera à éviter en fait beaucoup de drames et permettre à nos jeunes de vivre leur vie pleinement et de s'épanouir.
Je rappelle que vous suivez votre émission Ensemble, faisons entendre la voix des jeunes, et notre thème du jour porte sur les premiers rapports sexuels. Les jeunes ont parlé avec le cœur, mais aussi avec la raison. Au regard des informations fournies, nous savons que le besoin d'être informé est plus que jamais présent. Alors, nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste intervenant sur ces questions pour nous apporter plus d'éclairage. Mesdames, Messieurs, votre rubrique « Éclairage d'un spécialiste » avec Madame Bintasar, sage-femme et coordonnatrice de projet à ACDEF. La sexualité juvénile est très complexe et les informations à ce sujet sont parfois délicates à trouver. Madame, pourquoi les jeunes doivent-ils être informés sur la sexualité et surtout sur les premiers rapports sexuels?
En tant que spécialiste, mais en tant que mère de famille aussi, je crois qu'il est très important d'informer les jeunes sur leur sexualité globalement, mais aussi sur les premiers rapports sexuels. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'individu en tant que tel ne peut pas se prémunir s'il ne connaît pas une chose. Parce que quand on parle de premier rapport sexuel, on pense automatiquement aux conséquences que ça peut engendrer. Pour pallier à tout ça, je crois que, aussi bien pour les structures de soins qu'au niveau communautaire, je crois que les jeunes doivent être informés par rapport à leur sexualité, par rapport au premier rapport, pour qu'ils puissent déjà connaître les tenants et les aboutissants. Quand tu veux commencer une chose, il faut que tu connaisses un peu vraiment ce qui peut arriver, ce qui peut en advenir. Les personnes qui vraiment ont décidé de faire ce premier rapport sexuel, qu'ils se connaissent soi-même. Je crois que les enfants, les ados jeunes, s'ils ont toutes les informations inhérentes à cette question, ils pourront le faire à un moment où ils ont choisi, avec qui ils veulent le faire et comment, quelles sont les précautions qu'ils peuvent prendre pour éviter ce que j'avais dit au préalable par rapport aux conséquences qui peuvent survenir après ce premier rapport.
Pour vous, quelles sont les conditions qu'on doit réunir pour que les premiers rapports sexuels se déroulent bien?
Pour que toutes les conditions soient réunies pour que ce rapport sexuel puisse se passer comme il se doit, ça implique entre guillemets un couple, ça implique deux personnes. ces deux personnes, je crois que s'ils ont eu toutes les informations par rapport à ce qu'ils doivent faire en tant qu'acte, c'est un besoin naturel, il faut qu'on te dise d'abord, tous les deux, comment doit se passer l'acte sexuel. L'acte sexuel, c'est pas en un seul jour qu'on va essayer quand même de pénétrer la jeune fille. Il faudrait qu'il y ait quand même entre eux des préalables, parce que tout simplement, c'est pas en un seul jour qu'on fera l'acte, sinon on risque de créer des blessures, des douleurs qui sont ressenties, surtout pour l'adolescente. Donc il faut les préparer à ça. Il faut les préparer à ce premier rapport sexuel. Ou le faire quand vous avez déjà décidé. Ou le faire, c'est le faire dans des conditions correctes et peut-être avec les conditions réunies pour qu'il n'y ait pas de conséquences. Je veux parler des conséquences liées peut-être à la survenue d'une grossesse. Je veux parler des conséquences liées peut-être à la prévention contre les IST qui aujourd'hui peuvent avoir des conséquences dans le futur par rapport même à la procréation, par rapport même au terrain de fertilité ou d'infertilité. Parce que tout simplement, il n'y avait pas ces préalables qui étaient pris en compte par rapport à ce rapport.
Voyez-vous une évolution dans la prise en charge des besoins des jeunes sur la question? Si oui, qu'est-ce qui vous semble positif dans cette évolution?
Aujourd'hui, il y a des sites qui sont là. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont là. Les jeunes échangent entre eux. Il y a des spécialistes qui donnent des informations. Au niveau communautaire aussi, il y a ce qu'on appelle les relais qui sont là. Il y a des Badjanougor qui quand même, comme on dit Badjan, elle a un rôle capital à jouer. Elles peuvent quand même aujourd'hui donner l'information par rapport à cette sexualité des enfants, par rapport à ces premiers rapports. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une évolution au niveau même des mentalités des parents. Moi, aujourd'hui, je discute avec mes enfants de la sexualité, des premiers rapports, tout en leur faisant comprendre qu'il faut avoir une estime de soi. Connaître, c'est se prémunir. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une bonne évolution par rapport à ces cadres.
En matière d'information des jeunes sur la sexualité, y a-t-il des politiques ou bien des programmes que vous connaissez et qui ont fait leur preuve?
Le ministère de la Santé et de la Reproduction, à travers la DSRSE, qui a mis en place un cadre aujourd'hui qui s'occupe uniquement des jeunes. C'est la division de la santé et de la reproduction des ados jeunes. Je crois quand même aujourd'hui il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits par rapport à ça. En impliquant toutes les structures qui travaillent avec les jeunes, mais au niveau communautaire. Il y a des documents stratégiques qui sont aujourd'hui mis en place. On a un cadre stratégique de la SRAJ, de la santé de la reproduction des ados jeunes. Il y a des curriculums de formation qui sont mis en place, qui aident aujourd'hui les jeunes à bénéficier de beaucoup de formations qui pourront les aider quand même à connaître un peu quelles sont les réalités par rapport à cette sexualité qu'on connaît précoce.
Merci à Mme Binta Sarr pour ces éclairages. D'après les recherches pilotées par l'Organisation mondiale de la santé sur les pratiques porteuses en matière de droits et santé sexuelle et reproductive, ainsi que de la planification familiale des jeunes et adolescents, se démarquent plusieurs tendances. L'éducation complète à la sexualité, notamment en milieu scolaire et non formel, est identifiée comme une bonne pratique pour diffuser des informations adaptées de manière appropriée et pédagogique. Combiner l'adaptation de l'offre de services en santé sexuelle et reproductive à des activités d'information et de sensibilisation permet une approche intégrée au niveau des formations sanitaires. La père-éducation, même si elle a des limites en matière de changement de comportement des jeunes adolescents ciblés, peut contribuer à faire passer des messages clés. Campagne utilisant les nouvelles technologies et les canaux de communication privilégiés des jeunes, SMS par exemple, pour diffuser des informations dans des formats aisément accessibles, diversifier et adapter aux besoins et intérêts des jeunes. Maintenant, nous arrivons à cette rubrique perspective. Merci à Mme Ait Binta Sarr pour ces éclairages. Nous allons à présent parler de futur et de votre futur en tant que jeune. vous, vous serez, Pape Ousmane Camara, vous serez certainement parent. Comment appréhendez-vous cela? Allez-vous perpétuer cette tradition, à savoir de ne pas parler de sexualité avec vos enfants, et pourquoi?
Je ne me mettrai pas dans la continuité de cette tradition, parce que l'expérience que j'ai acquise étant jeune me permet aujourd'hui de comprendre que cette question, il faudrait la transformer en famille d'abord. En discuter avec nos enfants, en discuter avec nos jeunes sœurs et frères, pour que ces gens, pour que les jeunes puissent avoir assez d'informations. Parce qu'en en fait, la question de la sexualité, à mon avis, doit être une question de famille d'abord, avant d'être une question au niveau scolaire ou bien au niveau associatif. Donc, étant parent, je commencerai dès la plus jeune âge. Donc, où par exemple la jeune fille doit commencer à voir ses règles, à parler avec elle de la sexualité, à essayer de lui donner les bonnes informations pour qu'au moment où elle s'en prendra à cette vie, au moins qu'elles aient les informations nécessaires, qu'elles soient prêtes en fait pour entamer cette vie. Donc, et c'est de ça que je conseillerais à toutes les organisations qui s'activent aujourd'hui autour de la sexualité des jeunes de ne pas se limiter tout simplement aux jeunes, mais de transformer la question aujourd'hui ou bien transmettre les informations aujourd'hui aux parents, impliquer les parents dans la discussion ou bien dans la sensibilisation des jeunes sur la santé sexuelle. Et que je pense qu'abordant cette méthode d'intégrer les parents dans la résolution de ce problème, on arrivera à de meilleurs résultats et voire même à ce que cette question vraiment soit dépassée par la jeunesse sénégalaise.
Mademoiselle Fall, vous serez, on vous le souhaite quand même, d'être mère un jour. On voit que les parents ne parlent pas assez avec leurs enfants de sexualité. Est-ce que vous allez perpétuer cette tradition ou vous allez opter pour une autre stratégie?
Bon, je dirais tout naturellement que je vais opter pour une autre stratégie. Du moment qu'on a vu les résultats de cette méthode-là, parce qu'on voit les parents qui ne parlent pas, on voit les jeunes qui sont victimes de ces pratiques-là, et on voit que ce sont souvent des jeunes avec qui les parents ne parlent pas. Donc pourquoi on prendrait ce risque de ne pas parler avec nos enfants? C'est nous jeunes qui devrons changer ces choses, changer nos mentalités et vraiment déjà appréhender cette chose-là, dire qu'on va devenir parents. Donc forcément, on devra parler avec nos filles, avec nos enfants. Donc c'est à nous d'aller vers l'information, de tout connaître. Parce que comme l'a déjà dit le monsieur, c'est pas tous les adultes qui ont la bonne information en fait. On se dit que tous les adultes ont la bonne information, alors que c'est pas le cas. Peut-être ils sont adultes, mais ils ont de l'expérience, d'accord, mais ils n'ont pas vraiment toutes les informations. C'est à nous, les parents, d'aller connaître toutes les informations, même si on n'a pas vécu nous notre première expérience correctement, qu'on puisse savoir comment ça devrait se passer normalement et essayer de donner cette information à nos enfants, de les préparer à ce qu'ils vont devenir. Parce que comme on le dit, c'est un besoin naturel, c'est un besoin physiologique. Donc tout le monde va passer par là. Donc pourquoi pas ne pas parler à nos enfants de ça? On devrait le faire tout naturellement.
Alors, Monsieur Sek, on a vu que la communication entre parents et jeunes ne passait pas. Vous, en tant que parent, quel conseil donneriez-vous aux jeunes et aux parents aussi pour que cette situation puisse s'améliorer?
Vous savez que tout parent est fier de ses enfants et que malheureusement, des situations pareilles portent aussi un tort aux parents. En fait, on est au Sénégal, on sait quelles sont nos valeurs, et un parent qui voit que son enfant en fait a une grossesse précoce ou autre est très mal à l'aise dans cette société. Donc les parents ont tout intérêt, comme les jeunes, à mieux s'informer et à plus encadrer leur progéniture. Le conseil est simple. Hein. Je dois que tout jeune, comme nous on le fait dans le scoutisme, doit être le moteur de son propre développement. Les jeunes doivent aussi chercher la bonne information et la chercher là où il faut la chercher. Nous savons que les jeunes sont très influencés par leurs pères Et très souvent, les pères n'ont même pas la bonne information et s'appuient que sur des on-dit, etc. Et c'est pourquoi dans le scoutisme, nous avons depuis très longtemps lancé des programmes d'éducation et de formation qui s'adressent à nos jeunes pour qu'ils servent de relais et qu'ils soient des pères éducateurs dans la société. Je conseillerais aux jeunes de chercher la bonne information, de se rapprocher des adultes pour que, en fait, avoir accès à cette information et à tous les adultes, que ça ne se limite pas seulement aux parents, qu'ils puissent aussi bien utiliser les ressources disponibles dans le milieu scolaire avec les professeurs, qu'ils puissent aussi utiliser toutes les ressources disponibles dans la société. Et les parents doivent leur faciliter ça, les autorités doivent en mettre en place ou bien doivent inciter en fait à ce qu'il soit plus facile aux jeunes de pouvoir avoir accès à cette information. En tant que formateur, nous continuerons à faire notre travail. En tant que parents, c'est d'autant plus important parce que nous avons des responsabilités qu'il nous faut assumer. Donc nous continuerons à former nos propres enfants comme les enfants des autres, parce que aussi si certains parents sont plus informés que d'autres, ils peuvent aider. Je pense que c'est ce qu'on devrait essayer de faire, que tous ceux qui peuvent aider, tous ceux qui peuvent informer les jeunes puissent être impliqués afin que ces jeunes aient accès au maximum d'informations possibles et à la meilleure information possible, quel que soit le canal.
Dans la société, des hommes et des femmes prennent position pour changer la donne. Et comme vous, ils et elles sont conscients qu'il faut faire quelque chose. Et c'est aujourd'hui, maintenant qu'il faut le faire et non demain ou après-demain. En parler, c'est déjà bien. Donner sa voix, s'engager, c'est encore mieux. Notre championne, Madame Fatou Faye, elle est psychologue chargée du suivi des enfants victimes d'abus sexuels.
Fatou Faye, psychologue clinicienne au Centre de guidance infantile et familiale de Dakar. Je suis également chargée du suivi psychologique d'enfants victimes d'abus sexuels et de maltraitance dans les zones de Dakar, Thiès, Kédougou et Mbaké. Alors, je me suis engagée pour cette cause parce que je me rends compte que jusqu'à présent, à un moment où on parle encore de modernisme, que les questions sexuelles restent encore taboues. Et moi, je pense que la sexualité est quelque chose de normal et d'essentiel à la vie. Parce que à chaque fois qu'il y a tabou autour d'une question, ça veut dire que le jeune n'est pas bien préparé pour aborder ce sujet. Je reçois énormément de jeunes filles victimes de grossesse précoce, mais la plupart préfèrent parler d'abus sexuels dans l'entourage familial pour éviter toute stigmatisation. Moi, quand je les reçois dans mon cabinet, je me rends compte que c'était des actes consentis. Donc tout ça pousse l'enfant à ne pas vraiment assumer ce qu'il est. Les jeunes, comme je viens de dire, ne connaissent pas assez bien leur corps, ne connaissent pas ce qu'est vraiment la sexualité. C'est vrai qu'à un moment donné, avec les réaménagements psychiques qui s'opèrent à l'adolescence, ils sont plutôt attirés vers le sexe opposé, mais ils ne savent pas vraiment dans quoi ils s'adonnent. Et je crois que ça, c'est très grave et que les conséquences sont là, les grossesses précoces, les maladies sexuellement transmissibles. Alors, moi, je fais beaucoup de mobilisation et de sensibilisation sur l'éducation sexuelle, l'importance de l'éducation sexuelle. Je pense qu'il est temps que l'État formalise ce type d'éducation-là, qu'elle soit intégrée dans les curricula. Donc, que ça soit une éducation à la fois formelle et informelle. Informelle, c'est-à-dire que dans l'environnement, dans la famille, que les parents sachent comment aborder ces sujets, comment parler aux enfants, s'ouvrir aux enfants, que les enfants aussi aient le courage à partir de là de s'ouvrir sur ces questions-là dans la maison, dans l'entourage familial, mais également qu'à l'école, ce soit vraiment intégré dans les programmes scolaires, que les enfants n'aient plus peur de parler de sexualité, de protection, parce que c'est très important. Là, on se rend compte que, par exemple, un jeune de 16 ans n'osera jamais parler de préservatif devant ses parents. Donc, peut-être même à 16 ans, ils ne savent pas comment l'utiliser, alors qu'ils s'adonnent déjà aux actes sexuels. Et là, je trouve que c'est très grave. Donc, il faut vraiment éliminer tout ce tabou autour des questions de sexualité au Sénégal. Je crois qu'il est temps. Le message que je vais adresser aux acteurs, aux jeunes, c'est vraiment de comprendre et de se rendre compte surtout que la sexualité est une chose normale, qu'il faut s'ouvrir, que les parents vraiment acceptent une bonne fois pour toutes que leurs enfants, à un moment donné de leur vie, changent de cap, deviennent des adultes, et que c'est normal qu'ils s'ouvrent à eux, qu'ils parlent ouvertement de sexualité, qu'ils leur expliquent les étapes, comment faire, la protection. Donc je pense que c'est normal, parce que après les enfants, qu'on leur en parle ou pas, forcément, ils iront à la recherche de l'information, et quel type d'information, là, on peut pas le gérer.
Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver plus de champions et de championnes engagés dans ce domaine à travers toute la sous-région sur le site generationpf.equipop.org. Je rappelle que l'émission d'aujourd'hui portait sur la sexualité des jeunes et sur les premiers rapports sexuels. Pour certains jeunes, ces premières expériences sont vécues douloureusement. Pour d'autres, elles restent synonymes de plaisir et d'épanouissement. Quoi qu'il en soit, elles ne sont pas sans risque. Et en la matière, il est important d'être informé. Et voilà, mesdames, messieurs, notre émission tire à sa fin. Une journée entière n'aurait pas suffi pour faire le tour de la question. Merci, ces invités, d'être venus. Merci, ces auditeurs, de rester avec nous. À la présentation, Lamine Fatih. À bientôt.